Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Gêne-nous de l'information? Impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé.
On fait le tour des actualités avec l'économiste Francis Gosselin. Salut Francis.
Salut Alex, comment vas-tu?
Ben ça va très bien, toi aussi?
Très très bien.
Good. Hey, tu nous parles de BRP d'abord, qui se lance à l'assaut de la mobilité électrique et on a dévoilé plusieurs nouveaux produits.
Exactement, c'est hier qu'avait lieu la conférence annuelle des concessionnaires de BRP. L'entreprise de Valcourt, là, qui est maintenant séparée là, de Bombardier, là, donc Bombardier Produits et Créatifs, qui est connue pour ses Ski-Doo, Sea-Doo et autres produits, là, a profité de la présence de presque 3000 participants pour dévoiler de nombreuses nouvelles gammes de produits. Première chose excitante, je ne sais pas si tu es un amateur de voile ou de surf, Alexandre.
Ben écoute, j'ai découvert, moi, en fin de semaine, le wake surf.
Exact.
C'est vraiment, j'ai adoré ça, j'ai vraiment trippé.
C'est un peu dans la même ordre d'idée, mais c'est un produit qui s'appelle le Sea-Doo Ride.
Okay.
C'est une planche de surf, si tu veux, mais qui utilise la technologie qu'on appelle Hydroptère. Je suis pas un expert en la matière, Alexandre, mais si vous avez regardé ces dernières années, le America's Cup, là, la course de bateau là, extraordinaire, là, c'est vraiment comme, dans le fond, une planche, ou en tout cas un bateau, mais là, le cochon, une planche qui se maintient dans les airs, au-dessus de la surface de l'eau, là. Comme un ou deux pieds au-dessus de l'eau.
Oui, j'ai
vu
ça.
Et en fait, la seule chose qui connecte la planche et le passager à l'eau, c'est une espèce de lame qu'on appelle un foil. Mm-hmm. C'est une aile immergée, dans le fond. Et puis donc, ils vont lancer ce produit-là qui devrait être disponible en 2024. Donc, c'est assez excitant. Dans le fond, ça a l'air assez le fun.
Ça a l'air vraiment cool, ça, ouais. Ah ouais.
Sinon, un autre segment où il y a quand même beaucoup de gens déjà, mais où l'entreprise de Valcourt souhaite également s'insérer. BRP a donné plus d'informations sur deux projets qui étaient déjà connus, là, mais là, on va vraiment de l'avant chez BRP. Le Can-Am Pulse et le Can-Am Origin, okay. En fait, ce sont des motocyclettes traditionnelles, mais électriques, et qui seront aussi disponibles à partir de 2024. C'est un peu tardif, je te dirais. Bon, après, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais c'est quand même un segment où il y a déjà pas mal de joueurs, dont Harley Davidson, qui est quand même un gros joueur dans le monde de la moto, qui ont lancé il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant, la Livewire, qui est une moto électrique qui peut aller jusqu'à 180 km/h. Donc, c'est intéressant de voir BRP là, se lancer vraiment dans des produits très mainstream. Et on leur souhaite le meilleur des succès avec ces produits-là.
Ben oui, parce que le virage électrique, on est là. Je veux dire, il faut que les entreprises le prennent. Puis même pour les consommateurs aussi, à un moment donné, j'avais cette réflexion-là aussi. Tu sais, des fins de semaine de bateau, là, ça coûte... en essence, ça coûte une fortune.
Exactement. Ce serait intéressant de voir ces prochaines années. D'ailleurs, Alexandre, si BRP se lance aussi dans la motoneige électrique, on sait qu'on a un joueur au Québec extraordinaire qui s'appelle Taiga Motors. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent ça.
Okay.
Et qui fabrique le 3 modèles de véhicules, donc de motoneige entièrement électrique. Et ce sont de très beaux produits. Je pense qu'ils commencent les livraisons cet automne. Donc, c'est vraiment une belle entreprise d'ici là, qui se lance dans cet univers-là.
Ouais. L'Agence du revenu du Canada a trop d'argent. Pourquoi? C'est parce que je travaille beaucoup cet été.
Exactement, Alexandre. C'est juste grâce à toi.
Oui, c'est ça.
On apprenait hier, en fait, que l'Agence du revenu du Canada, donc l'ARC, qui perçoit évidemment les taxes et les impôts, les tiens, les miens, et ceux de nos auditeurs aussi, aurait un surplus de 1,4 milliard de dollars. Et en fait, ça correspond surprenamment à des chèques qui n'ont pas été réclamés par des contribuables. Donc, c'est des contribuables qui gentiment laissent l'ARC gérer leur argent. Ce sont 8,9 millions de chèques sont un peu comme ça perdus dans la nature. J'ai fait un petit calcul, Alexandre, c'est 35 $ par personne.
Ben quand même, 35 $, on va le prendre.
Mais tu sais quoi, je devine que c'est pas tous les Canadiens qui ont un chèque perdu dans la nature. Donc si c'est par exemple 10%, ben c'est 350 $. Si c'est 1%, c'est peut-être 3 500 $. Donc il y a des chèques, bref, qui circulent. Ceci dit, l'ARC a rappelé que depuis 2020, ils ont mis en place un processus pour accélérer les encaissements de chèques flottants, on pourrait dire. Et elle émet chaque mois environ 25 000 avis pour rappeler aux gens d'encaisser l'argent qu'il leur est dû.
Mais tu me le dis pas deux fois, moi, va te le dire. Tu me le dis pas deux fois.
Oui, non, c'est ça. Exactement. Ceci dit, depuis qu'elle a lancé l'initiative, il y a environ 2 millions de chèques qui ont été encaissés pour environ 800 millions de dollars. Et juste un petit rappel pour les auditeurs, les chèques de l'ARC, contrairement à beaucoup d'autres chèques, n'expirent jamais.
Ah ouais, hein?
Même si vous retrouvez ça dans le fond d'une commode datée de 2008, là, c'est toujours l'encaisser sans aucun problème. Sinon, on peut aussi se connecter à Mon Dossier. On en a parlé la semaine dernière, Alexandre, de Mon Dossier.
Oui, oui, oui.
C'est un système un peu complexe de connexion en ligne, mais qui va devenir la nouvelle norme pour l'ARC à partir de 2023. Sinon, j'aimerais juste rappeler aux auditeurs que s'ils ont un chèque de l'ARC qui ne savent pas quoi faire, ils peuvent l'endosser puis me l'envoyer. Moi, j'accepte les dollars.
Oui, oui, puis ça aussi, hein, ça se fait rapidement. Et bien sûr, on rappelle aux gens de l'Agence du revenu du Canada de répondre au téléphone quand on vous appelle. Merci. Et un mot en terminant sur les attentes inflationnistes des consommateurs américains qui diminuent.
Oui, on va passer rapidement là-dessus, mais c'est un rapport de la Réserve de l'État de New York qui a été dévoilé hier. En fait, tu sais, comme on en a déjà parlé, on sonde un peu ce que les consommateurs pensent que l'inflation va être. Donc, dans les faits, c'est pas un prédicteur très exact, mais donc, ça reste que les Américains croient que l'inflation va se chiffrer à 6,2% pour la prochaine année, ce qui est en baisse par rapport aux 6,8% qu'on avait enregistré. C'est pas majeur, mais si on regarde à 3 ans, à 5 ans, ça baisse également de près d'un demi-point là, dans les attentes des consommateurs à tous les horizons qu'on regarde. Donc, ça veut dire que la stratégie des taux élevés que le Canada, les États-Unis et d'autres pays adoptent semble fonctionner, au moins dans la psychologie populaire. Ça pourrait être un déterminant de si oui ou non on continue à vivre là, dans un système de forte inflation. Juste un petit rappel, c'est sûr qu'on va en parler la semaine prochaine, le 16 août, Alexandre, les données sur l'inflation de juillet à juillet vont être publiées par Statistique Canada, donc stay tuned de midi 15.
Tu vas te mettre une alarme.
C'est ça, exactement.
Non, mais c'est là qu'on va voir. Ouais, puis c'est là qu'on va voir si effectivement là tous ces points de pourcentage qu'on a augmente là pour le taux de directeur, si ça aura eu effectivement un impact. Alors Francis, on gardera un œil là-dessus assurément. Passe une belle journée. On refait ça demain.
Yes, à demain.
Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vincent Dessureau suit à l'instant. Bonne journée et je vous retrouve demain dès 10h pour une autre émission sur Cube. Bye.